Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'une semaine sportmédable. Je vous présente nos invités avant de vous donner le menu. Nous sommes avec Bruno Salvet, bonjour.
Bonjour.
Et Eric Figuère, bonjour.
Bonsoir à tous.
Au menu, messieurs, du rugby, bien évidemment, ce sera plutôt avec Bruno. Du golf, bien évidemment, ce sera plutôt avec Eric, mais on parlera aussi MotoGP, football et pourquoi pas cyclisme, si vous le voulez bien. On va commencer avec le rugby, avec une triple actualité, Bruno, ce week-end. Alors, Coupe du Monde féminine qui s'est terminée, le top 14 et le rugby championship. On va commencer, parce que nous sommes galants, par les dames et la fin de la Coupe du Monde. Je débutais mon papier ce midi dans le journal en disant, et à la fin, ce sont les Anglaises qui gagnent. C'est un peu le résumé de cette compétition.
Absolument, il n'y a pas eu de surprise. Hein. Cette équipe anglaise, en plus, qui joue à la maison, à Twickenham, face à... Au Canada,
ouais.
À l'invité surprise de cette finale, mm-hmm. Bien que le Canada soit classé troisième nation mondiale, donc c'est pas rien. Donc c'est vrai que les Anglaises remportent leur troisième titre depuis que la compétition féminine existe, mm-hmm. et donc victoire logique sur le score de 33-13. Un match bien mené par une équipe anglaise qui, les joueuses anglaises, on en avait parlé déjà une fois, c'est que ce sont des joueuses qui sont professionnelles, donc qui ont un statut de pro, donc elles s'entraînent tous les jours, elles ont un aménagement, elles font de la musculation, donc voilà, donc elles sont traitées comme, entre guillemets, les hommes à ce niveau-là, donc c'est vrai que c'est dur de rivaliser avec ces joueuses-là. Ouais.
L'équipe de France, elle, a joué les demi-finales, c'est l'objectif hein, pour cette équipe de France, et puis il y a ce match pour la troisième place, alors peut-être que voilà, on a peut-être un peu laissé passer ce match, mais une défaite quand même lourde face aux Néo-Zélandaises, 42-26.
Oui.
Alors c'est les Néo-Zélandaises, on est d'accord.
Ce sont les Néo-Zélandaises. Depuis que la compétition existe, hein, depuis 1991, ouais. Les Anglaises donc, ont remporté 3 titres, mm-hmm. Les Néo-Zélandaises en ont remporté 6, mm-hmm. Et les États-Unis avaient remporté donc, la première
édition
en 1991. Ouais. Donc c'est vrai que ces deux nations-là se partagent les trophées, mm-hmm. Donc il n'y a pas de surprise. En plus, les Françaises avaient perdu quelques éléments avant cette finale pour la troisième place. Mmh. C'est décevant pour l'équipe de France, mais après, la logique est respectée. Donc voilà, il va falloir retravailler, repartir avec un groupe et se préparer pour la prochaine échéance. Mmh.
Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France pour passer le cran supérieur et pour aller jouer peut-être une finale? Parce qu'on voit, les Français sont dans le dernier carré très régulièrement sur la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui manque? C'est le professionnalisme?
Absolument,
quelque part,
c'est ouais. Ça. Parce que les Black Ferns, donc les joueuses néo-zélandaises, ont pareil ce même statut de joueuses professionnelles. Donc elles sont bien accompagnées. Les Canadiens sont souvent on connaît la culture sportive du Canada, hein, donc ils sont très axés sur la pratique sportive, mm-hmm. Que ce soit en université ou dans le civil. Donc c'est vrai que voilà, il faudrait que les clubs français ou que la fédération et les clubs français puissent offrir ou donner la possibilité aux joueuses françaises d'avoir un statut professionnel.
Il y a une volonté, à votre avis, du rugby français de donner ce professionnalisme comme ça a été fait il y a quelques années pour le football?
Ouais, ça met un peu de temps à prendre. C'est vrai que les trouver des sponsors et trouver des financements déjà pour les clubs professionnels masculins,
c'est compliqué.
Donc imaginez pour les femmes. Donc mm-hmm. C'est vrai que en plus le rugby féminin, c'est très agréable à voir. Ça a vraiment énormément évolué depuis quelques années. Donc elle mériterait bien sûr d'avoir le même statut que les hommes, absolument.
Mm-hmm. Eric Figuère, vous avez suivi cette Coupe du Monde femmes?
Oui. Alors j'ai pas vu les matchs. Non, j'ai regardé. La plupart des résumés, et effectivement c'est très intéressant. Pierre Forest l'avait dit la semaine dernière que ce manque de cette absence de professionnalisme poserait problème, et évidemment ça s'est vu. Mais tant que, alors je crois pas que la volonté soit affichée par la fédération d'aller jusque là pour les filles, c'est bien dommage. Mais après, tant que le championnat, il y aura pas un championnat effectivement qui sera structuré, intéressant, tant que les clubs ne seront pas effectivement plus à même de développer le rugby féminin, ça risque d'être compliqué.
Ceci étant, chez les hommes, la professionnalisation, elle n'est pas si ancienne, si vieille que ça, Bruno.
95.
Hein. Ouais, 95.
Ça commence à faire maintenant.
Sauf que il a fallu que Galtier et Laporte, ça on peut pas le reprocher, négocient âprement avec la Ligue nationale de rugby pour pouvoir avoir les internationaux à disposition toute l'année. Ouais. Donc pour avoir des programmes de suivi individuel. individuelle et ainsi de suite, et d'avoir un staff à chaque fois 40 joueurs. Donc il y a eu un gros travail là-dessus, et donc ça demande aussi des moyens financiers énormes, parce que quand les joueurs sont quand même salariés des clubs, et quand ils sont en équipe de France ou quand ils sont sur des rassemblements, ils sont pas dans leur club. Donc la fédération dédommage les clubs. Donc il faudrait faire exactement la même chose pour les féminines, mais voilà, donc c'est l'argent est le nerf de la guerre, et malheureusement les féminines en souffrent terriblement actuellement.
Sur la professionnalisation du rugby, je pense à un alors c'est pas pour faire de la publicité, mais un reportage qui est extraordinaire sur Canal+, qui s'appelle, je crois, l'Odyssée du Top 14,
oui.
Où on vous rappelle tous ces moments-là, et c'est un très très beau reportage, qui rappelle plein de souvenirs.
Toute la genèse du rugby sur Canal+. Ouais.
Exactement. On va continuer à parler rugby, avec cette fois-ci les messieurs, et le rugby championship. Et deux matchs ce week-end, la Nouvelle-Zélande s'est imposée 33-24 sur l'Australie, et l'Afrique du Sud a littéralement atomisé l'Argentine 67-30. On va commencer peut-être par Nouvelle-Zélande-Australie, Bruno. Les Néo nous avaient bien déçus ces dernières semaines. Là, ils se sont refait un peu la cerise.
Oui, mais ils sont ils évoluent en dents de scie. Ouais. Ils menaient rapidement 20-3 contre les Australiens. Et puis, ils ont eu un creux. Et les Australiens sont revenus grâce à une défense acharnée. Donc, la Nouvelle-Zélande n'est pas aussi constante qu'on la connaissait. Et donc, c'est fait peur, d'ailleurs, sur ce match-là. Et c'est imposé, mais un peu dans la douleur. Donc, c'est étonnant de voir cette équipe black avec aussi peu de constance dans la performance, avec aussi des joueurs qu'on dit vieillissants, donc ils ont du mal à renouveler aussi leur effectif à ce niveau-là.
Ouais.
Et des Australiens qui proposent vraiment un rugby total, engagé, tel qu'on les connaît, et qui préparent âprement la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu chez eux.
Ça vient du fait que l'Australie va accueillir la Coupe du Monde, que les Australiens se remettent un peu au turbin en rugby à 15.
Les Australiens seront en grande difficulté au niveau du rugby à 15, parce que c'est loin d'être le sport numéro 1.
Bah oui.
Donc il y a le footy, donc l'Australian Rules. Et après, on a le rugby à 13, qui est le sport roi là-bas.
Bien sûr.
Et puis le rugby à 15 arrive vraiment en troisième position. Donc c'est vrai qu'il faut que l'équipe nationale ait de bons résultats et qu'il y ait un engouement autour de cette pratique pour donner les moyens. On est toujours pareil. Donner les moyens, faire venir aussi des joueurs de 13 vers le 15, alors que habituellement c'est l'inverse, puisqu'ils sont mieux payés à 13 là-bas. Donc c'est vrai qu'il faut inverser la tendance, et il me tarde de voir ce match retour la semaine prochaine, qui aura lieu en Australie, où les Australiens vont accueillir les Néo-Zélandais, et là je pense que ça va être un combat de tranchées, quelque chose d'assez phénoménal.
Eric, sur ce Nouvelle-Zélande-Australie, vous disiez oui, c'est un peu en dents de scie.
C'est un peu en dents de scie, hein. On a vu qu'ils ont perdu chez eux le week-end précédent.
Il y a 15 jours.
Donc malheureusement, moi je suis un fan de la Nouvelle-Zélande, donc forcément je suis un peu déçu quand ça marche un peu moins bien. Ça fait quelques années qu'ils sont un petit peu dans le dur. Ça restera évidemment une équipe redoutable, ça c'est certain. Et puis de toutes les manières, on a envie de les regarder jouer, des hymnes au haka et évidemment pendant le match, ça c'est une certitude. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est certain qu'ils sont plus dominateurs comme ils l'étaient. On voit très bien d'ailleurs avec un Beauden Barrett qui est en grande difficulté. Là, c'est lui qui a buté ces derniers matchs, et c'est assez compliqué.
Il est sorti sur blessure.
Voilà. Donc, on voit bien qu'ils ont des manques. Ils conservent toujours des joueurs extraordinaires, et c'est pour ça que c'est toujours très agréable à voir. Mais là, on voit bien que l'Afrique du Sud est repassée, je pense, assez largement devant, même s'il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de. Voilà, on sait que ça peut changer. Mais c'est un petit peu dommage.
Ça manque de lien, et ça manque aussi de gabarit. Je trouve que les Néo-Zélandais n'ont plus leur deuxième ligne telle qu'ils avaient avec...
ils ont perdu très gros.
Whitelock et... Et donc c'est vrai que là ils ont des joueurs beaucoup plus longilignes, beaucoup plus mobiles, mais bon, quand on joue les deuxièmes lignes, le pack australien qui est très très costaud, avec des la plupart des deuxième ligne, troisième ligne sont tous à 2 mètres et à 120 kilos. Donc, quelque part, à un moment donné, ça pique un peu.
Ils ont toujours eu des très grands leaders.
Absolument.
Et là, on se rend compte que ben, là, ils en ont moins, voire plus. Alors, évidemment qu'il y a encore des joueurs exceptionnels, bien sûr, mais ils n'ont plus ces leaders-là. Et on sait qu'à ce niveau-là, c'est aussi ce qui fait un petit peu la différence.
C'est ce que j'allais vous poser comme question, notamment Bruno. On a le sentiment qu'il y a plus ce renouvellement de génération chez les Blacks qu'on avait ces dernières années où bah, un joueur était très bon à son poste et puis bah, il était un peu vieillissant et derrière il y avait quelqu'un qui était aussi bon que lui.
Ils ont aussi du souci avec les jeunes hein, puisqu'on sait que depuis quelques années ils ont du mal à faire venir les jeunes vers le rugby aussi en Nouvelle-Zélande, bien que ce soit le sport un des sports nationaux. Donc bah, forcément à un moment donné la pyramide est moins large.
Mais sur le renouvellement des générations,
oui, aussi, renouvellement des joueurs, et aussi, je me fais d'accord avec Eric par rapport aux leaders. Ils ont eu des leaders emblématiques, Richie Mako, capitaine légendaire,
le plus grand pour moi.
Bien sûr. Après, il y a eu Reed de troisième ligne. Et là, on le voit, le capitanat n'est plus assuré. Il est assuré par plusieurs joueurs. Alors, un coup, c'est Savea. Une autre fois, c'est Barrett, le deuxième ligne. Donc,
Et ça, ce sont des lieutenants, en fait.
Absolument. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut, là-dessus, bon, peut-être que la mayonnaise prend mal aussi avec le nouvel entraîneur. Hein, oui. Donc, voilà. Donc, en tous les cas.
Il faut un peu de temps.
Une grosse pression. Oui, après, voilà.
On sait que c'est un très, très bon entraîneur.
Absolument, oui.
Et qui est resté en place, parce qu'après la défaite contre les Sud-Af, on aurait pu croire que...
Oui, mais on n'est pas dans le système. Je pense qu'ils sont plus tolérants là-dessus, bien
alors,
que...
Les médias non, hein.
Oui, bien sûr.
Les médias sont durs, hein, mais...
Il se dit que le poste d'entraîneur des All Blacks est aussi important que celui de Premier ministre en Nouvelle-Zélande.
Oui, c'est pour
donc,
ça.
Donc, imaginez la pression qu'a l'entraîneur des All Blacks.
Et après, ils n'ont pas énormément de ressources derrière, donc c'est bien beau de faire partir... Le coach, mais si derrière il n'y a pas mieux.
Ouais. Afrique du Sud, 67, Argentine, 30. Les Sud-Af sont toujours, toujours en forme. Impressionnant. Ouais, champion du monde en titre. Hein, mais,
champion du monde en titre. Et eux, pareil, ils avaient un problème de génération avec une génération vieillissante. Et alors là, Rassi Erasmus, là, donc l'entraîneur, le gourou sud-africain, nous a sorti encore des joueurs. Qui viennent d'une autre planète. Je vois le numéro 10, là, Sacha Fenberg, Mgomezulu, pas facile à dire, qui s'est permis de marquer 37 points en numéro 10, qui est vraiment le chef d'orchestre et le poste le plus important, un des plus importants, puisque c'est lui qui mène le jeu au niveau d'une équipe de rugby, qui nous a sorti une partie vraiment remarquable. 37 points dans un match, donc il a battu le record de Percy Montgomery, qui était déjà le meilleur réalisateur sur un match qui était de 35 points. Donc un joueur fabuleux. Et puis il y a des joueurs qui sont physiquement, on parlait tout à l'heure un peu du manque de puissance entre guillemets des joueurs All Black.
Ah bah là il y en a de la puissance.
Là ils ont
ça ne manque pas. Là.
Ils ont ce qu'il faut. Je veux dire, il vaut mieux les inviter au cinéma qu'au restaurant parce ça. Que ça va vous coûter très très cher. Hein, je veux dire, là il y a du comment on dit en rugby dans le jargon, il y a de la viande et il y a un poids quoi, il y a un pack à 980 kilos. Donc vous imaginez, vous divisez 980 par 8 joueurs et ça vous donne un peu la moyenne des poids des joueurs de cette équipe. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que on les connaissait vraiment destructeurs. Et là, maintenant, non seulement ils sont destructeurs devant, donc ils arrivent à jouer énormément dans l'axe et à mobiliser les défenses et à les resserrer. Mais en plus, là, ils ont des joueurs exceptionnels derrière, avec de la vitesse, avec des appuis. Donc beaucoup de joueurs noirs africains, donc qui ont des qualités énormes. Et c'est vraiment très plaisant à voir. Et je pense que ça va être très, très dur de les battre. Et je pense qu'ils vont arriver en 2027 prêts pour défendre leur titre.
La Coupe du Monde.
La Coupe du Monde. Et puis, ils viennent en France quand même au mois de novembre. Donc, pour la tournée d'automne. Et donc, voilà.
On va demander à ce que tous les restos français soient fermés. Parce qu'a priori... Eric, cette équipe sud-africaine, elle...
Cette équipe
vous êtes fan des Blacks, vous le disiez, mais
on
aime le sport et le rugby...
Exactement. C'est très agréable. Très agréable à les regarder jouer. Ils sont tellement surpuissants que je ne peux pas m'empêcher quand même régulièrement de me demander comment ils font. Alors
Beaucoup,
je ne veux pas mettre... On sait, hein, il s'est toujours dit que que des choses pouvaient se passer en Afrique du Sud, effectivement, pour leur permettre de... Alors, j'ai aucun élément, moi. Hein, je ne vais pas dire que c'est pour
ça que
c'est
libre de vos propos.
Voilà, j'assume. Non, mais tout simplement, ça fait longtemps qu'ils sont sur le devant de la scène. Donc, c'est pas une surprise. Ils sont très, très forts, très, très puissants. Et ils vont être très difficiles à bouger. Je vois pas aujourd'hui quelle équipe peut les battre. Alors évidemment, sur un tournoi, beaucoup de choses peuvent se passer, mais ils sont aujourd'hui les meilleurs.
Bruno, une toute petite question. Où en est l'équipe de France par rapport à ces quatre équipes là qu'on voit jouer depuis quelques semaines, par rapport à la Nouvelle-Zélande, l'Australie? Alors, sans doute en dessous de l'Afrique du Sud, mais potentiellement, on est niveau Nouvelle-Zélande, Australie, on est au-dessus, comment?
Lors de la tournée de juillet en Nouvelle-Zélande,
c'était une équipe terre.
C'est vrai que les Français ont réussi à accrocher les Néo-Zélandais, mais bon, on voit l'inconstance de l'équipe néo-zélandaise. Je pense que le bon test pour savoir comment situer cette équipe de France, ça va être les tests de novembre, où ils vont voir jouer ce qui se fait de mieux. Pour revenir juste à ce que disait Eric, c'est vrai qu'il faut quand même se poser quelques questions sur les joueurs d'Afrique du Sud, puisque quand même l'équipe de 95 qui était championne du monde, il y a au moins 4 ou 5 joueurs qui sont morts rapidement, et de maladies un peu bizarres.
Maladie
de Charcot, des maladies qui sont très rares. Et voilà, donc il y a eu des suspicions de dopage.
Je crois que beaucoup de choses se sont passées à l'époque. Voilà. L'Afrique du Sud avait plus besoin que jamais de remporter ce titre.
Absolument.
Et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour gagner. Et malheureusement, au détriment très certainement de la santé des joueurs. Après, qu'est-ce qui s'est passé effectivement après? Est-ce qu'ils ont continué? Est-ce que c'est malheureusement un problème général dans le sport.
Un petit mot du top 14 avec la quatrième journée, je crois, ce week-end. Tout le monde a gagné à la maison. Match nul, Montauban, Montpellier. Pas de surprise, Bruno, pour cette journée de top 14?
Non. Toulouse s'est bien repris après la déconvenue de la semaine dernière à Montpellier.
Il valait mieux contre Castres quand même, parce que c'est le grand derby.
C'était le derby, ouais, bien sûr. L'équipe de Bordeaux qui a pris une correction quand même ce week-end. Donc c'est le Stade Français qui était mal en point. Donc le Stade Français les recevait. Donc c'est vrai que c'est les leaders se replacent, et une surprise agréable, c'est l'équipe de Pau qui propose un rugby total très agréable à voir. Et ça nous promet une saison très intéressante au niveau du top 14. Et ce matin, il y a eu un derby,
Bayonne-Toulon.
Entre les deux derniers demi-finalistes, donc Bayonne et Toulon, et vraiment ça s'est terminé sur un drop à la dernière minute de second, donc un très beau match
et victoire de Bayonne 35-32. Eric, vous suivez un peu le top 14?
Oui, bien sûr, moi je suis malheureusement l'équipe qui aujourd'hui est dernière du championnat, parce que moi je suis supporter de l'USAP et donc je suis très triste. Ça fait quelques années qu'on souffre, qu'on se sauve in extremis, et là championnat, le championnat, alors qu'ils ont fait un excellent recrutement pour le coup et ils se sont donné les moyens, malheureusement le championnat démarre très très mal. Et là, on n'entrevoit pas du tout la lumière. Donc, ça va être compliqué. Même Montauban, on se rend compte qu'ils arrivent à prendre des points. L'USAP, non. Voilà, donc je suis un peu triste. J'espère que ça va bouger un petit peu. C'est le début, bien sûr. Il faut qu'il trouve le lien entre tous ces nouveaux joueurs. Il y a un très bon staff. Il y a évidemment un public. Il y a évidemment une histoire à Perpignan. Donc ça ne pose pas de problème. Ils peuvent effectivement se relever. C'est compliqué. Les deux équipes parisiennes qui, elles, avaient très mal démarré la saison dernière et qui avaient eu une saison plus que compliquée cette année, semblent être reparties sur de bons rails. Et puis Toulouse, une petite piqûre de rappel la semaine dernière. Est-ce que ce n'était qu'une piqûre de rappel dont ils avaient besoin? On va le savoir dans les deux ou trois semaines qui vont venir. Ça reste Toulouse. Ils l'ont montré ce week-end. Mais on va voir, c'est très compliqué de gagner tous les ans, forcément, on le sait.
Toulouse se déplace à Bayonne
Donc ça va être très 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 intéressant, ce déplacement.
On va marquer une pause, c'est la mi-temps, et puis on se retrouve dans un instant pour parler d'autres sports.
RRB, la pub.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
Il est 17h, passé de fin de 26 minutes. Tout de suite, la suite de votre rubrique Sportmidable.
Une semaine Sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La deuxième mi-temps de une semaine Sportmidable avec nos invités Bruno Salvet et Eric Figuère. Je ne vais pas vous présenter le sport dont on va parler. Je vais juste vous laisser écouter et on en parle dans un instant. Alors vous allez me dire rugby peut-être, football peut-être, non,
peut-être de golf, oui, je crois golf, peut-être.
C'est incroyable.
Je le répète encore une fois, le sport individuel le plus pratiqué au monde. À chaque fois que je viens, j'en parle parce qu'il faut encore.
On
faut
va y
encore
aller, Bruno. On va le laisser.
Non, mais on a vécu un week-end absolument phénoménal. On s'attendait à un week-end phénoménal, comme tous les deux ans lorsque la Ryder Cup arrive.
C'est la 45e édition.
C'est la 45e édition, donc c'est pas nouveau. Progressivement, comme je l'avais expliqué la semaine dernière, en faisant un petit peu d'histoire, les Anglais, et puis ensuite les Britanniques avec les Irlandais, et puis ensuite les Continentaux à partir de 79, et c'est là que les choses se sont rééquilibrées, mmh. Et où généralement les Européens gagnent en Europe et les Américains aux États-Unis. Mmh. Voilà, c'est plutôt la règle.
Et ben pas cette fois.
Et puis pas cette fois. Rory McIlroy l'avait dit à la fin de après leur victoire en Italie il y a deux ans. Ce qu'on va faire, c'est qu'au-delà de gagner chez soi, on va aller gagner aux États-Unis. Et ils l'ont fait. Alors ça a été une bataille, ça a été un monument de sport, hein, voilà, comme on peut en trouver bien sûr dans d'autres disciplines, hein, évidemment, mais avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur le pré, comme on dit. Avec des débordements, on va en parler aussi forcément, parce que ce qui s'est passé est... voilà, n'a pas
c'est
sa place.
Pas très golf.
Non, c'est pas, hein, c'est même pas.
C'est pas, alors, pas très sport.
C'est pas très sport tout court. Étonnant, et puis c'est encore moins golf, puisqu'on sait, enfin on sait, on dit toujours que c'est un sport de gentleman. Et c'est vrai. Et on le voit d'ailleurs dans tous les grands tournois en Europe continentale, enfin dans les îles britanniques aussi. On sait que vraiment ces publics-là sont vraiment des publics extraordinaires. Et on sait malheureusement, à contrario, que les publics américains sont souvent des publics catastrophiques. Qui plus est, il les laisse s'alcooliser dès 9h du matin, et donc quelques heures après, ça devient compliqué. Alors évidemment qu'un public se doit de supporter son équipe, c'est tout à fait normal. Dans le golf, on sait que justement pour la Ryder Cup, on sait, et aux États-Unis, on sait que les choses sont souvent à la limite, plus qu'à la limite des débordements. Et puis cette année, ce week-end, on a assisté à des choses...
un peu
insupportable.
Ouais. Et juste pour réexpliquer le son qu'on a entendu, ça a été enregistré dans le bus de l'équipe européenne.
On a vu beaucoup de belles images, d'ailleurs.
Voilà, dans le bus des Européens qui allaient sans doute à l'aéroport pour reprendre l'avion. Voilà. Et c'était donc à l'intérieur de ce bus avec ces joueurs que l'on voit habituellement si calmes.
Et on a vu beaucoup de belles images, pour le coup, de débordement de joie, de champagne, effectivement, les uns sur les autres. Ouais. Et puis on a vu des joueurs tellement heureux d'avoir remporté cette victoire. Ça faisait vraiment plaisir à voir quand on supporte l'équipe européenne, bien évidemment.
Victoire des Européens 15-13. Bruno, vous, c'est le genre de compétition que vous suivez
Oui, Ryder Cup. J'aime bien le golf. Bien le golf. J'ai joué un petit peu, mais bon, j'ai vraiment... On en parlait déjà tout à l'heure en antenne. Mes balles ont du mal à partir là où je veux, donc c'est assez compliqué.
C'est tout un problème.
C'est le lot de beaucoup de joueurs, quand même.
Voilà, c'est ça.
C'est toute la problématique de ce sport.
Mais je suis totalement admiratif par rapport à la précision, à la concentration, au calme des joueurs, alors qu'il n'y a rien de plus rageant quand on voit un putt la balle qui s'arrête à 2 cm du trou. C'est vrai que, pour en revenir un peu au public, j'ai trouvé ça un peu choquant de voir cette attitude-là, et de voir même les joueurs américains faisant signe au public de se calmer et de respecter...
Il a fallu attendre malheureusement longtemps avant que justement les joueurs américains se prennent en main et demandent à ce que le public se calme. Et c'était à eux de le faire. faire. Alors évidemment, c'est difficile parce que d'abord, ils étaient en train de se prendre, comme on dit vulgairement, une tôle pendant les deux premiers jours de compétition en double, puisque les quatre sessions ont été remportées par les Européens. Et ça, ça n'était jamais arrivé sur le sol américain. Donc c'était vraiment très difficile pour eux. Et ils avaient forcément besoin, pour cette dernière journée de simple, de rameuter les troupes, de rameuter le public, bien évidemment. Mais trop, c'est trop. Et à tel point que le public finalement ne supportait pas les Américains, mais ne faisait que qu'insulter et que gêner les joueurs européens lorsqu'ils étaient ce qu'on appelle à l'adresse, c'est-à-dire au moment de frapper leur balle. Et ça ne doit pas arriver au golf. Voilà. Ça, c'est pas possible.
Je voudrais qu'on revienne un peu sur le détail de ces trois jours de compétition, parce que oui, c'est important. Ça se joue sur trois journées. Il y a une partie où on joue en équipe, et puis ensuite, ce sont des simples. On est un contre un. On a le sentiment que les Européens, c'est vraiment une équipe, parce que quand il s'est agi de jouer en équipe sur les deux premiers jours, les Européens ont largement dominé. À la fin du deuxième jour, ils sont quand même à 11,5 et 4,5 uniquement pour les Américains. Et puis, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse.
Je pense que ce qui pose un très gros problème aux Américains, et c'est ce qui fait aussi que...
C'est quoi? C'est un égo démesuré joueurs américains?
Justement, j'allais y venir. Les Américains, je l'avais dit la semaine dernière, dans les 10 premiers mondiaux, il y a 7 Américains. Les 7 Américains, bien sûr, étaient dans l'équipe de Ryder Cup. Évidemment, il y avait 3 Européens dans les 10. C'est les 3 qui manquaient. Donc, il y a clairement un déséquilibre. Et c'est aussi pour ça que les Américains sont si forts, parce que justement ils ont aussi, alors certes une manière de se préparer, une manière d'arriver au niveau qui est différente de celle des Européens, mais ils ont un ego surdimensionné. Alors c'est ce qui fait les champions, l'ego surdimensionné, bien évidemment. On l'a vu avec Tiger, on l'a vu avec d'autres, bien sûr. Et puis les Européens n'en manquent pas d'ego eux aussi pour les tout meilleurs, et c'est ce qui fait la différence. Mais c'est ce qui justement les empêche à un moment donné probablement d'avoir ce lien que les Européens justement arrivent à avoir, alors qu'eux sont issus de nationalités différentes et donc pourraient justement avoir plus de difficultés à se retrouver, à se lier et à être vraiment en équipe. Et c'est tout le contraire qui se passe depuis que les continentaux sont arrivés. Les Européens ont malgré tout toujours eu des joueurs très forts et des joueurs avec un charisme très très important, aujourd'hui comme hier. Ça c'est valable tous les deux ans. Il y a toujours énormément de charisme dans cette équipe, mais c'est un charisme qui est mis pour l'équipe, qui est mis à la disposition de l'équipe, et ça c'est aussi très important. Les Américains aussi, bien évidemment, sont amis, etc., ont envie de jouer ensemble, ont envie de gagner, bien
évidemment. Mais on a le sentiment que, pardon de faire ces raccourcis-là, mais on a le sentiment qu'après une journée de Ryder Cup, même si ça s'est mal passé, les Américains n'ont pas forcément envie d'aller boire une pression après la journée, alors que les Européens, on a le sentiment qu'ils vont aller faire un petit coup de fête le soir.
Après, c'est le rôle du capitaine aussi. Le rôle du capitaine est primordial. C'est le rôle du coach qui doit justement réunir son équipe, arriver à fédérer, à trouver les bonnes personnes qui doivent jouer ensemble. J'ai vu que Deschambeau avait du mal, parce que très fort caractère, à être associé à un autre joueur. Donc c'est vrai que pourtant McIlroy, ce sont des joueurs qui ont une classe internationale, qui ont fait des résultats, qui n'ont plus rien à prouver, mais je trouve qu'ils se sont beaucoup plus fondus dans l'équipe Europe que les Américains, qui, comme le disait Eric, ont tendance à avoir un comportement beaucoup plus individualiste et moins l'envie de jouer en équipe. Donc là, c'est vraiment le rôle du capitaine d'arriver à fédérer, et je pense que le capitaine européen là-dessus a trouvé les bons mots et les bonnes solutions
Tu as raison, bien sûr.
C'est important, le rôle du capitaine,
bien
Eric.
Sûr, mais il est primordial dans tous les sports, dans toutes les disciplines. Il est primordial. Chaque fois que je peux en parler, d'ailleurs, je parle des managers en général qui ont vraiment une importance capitale. Bien évidemment que les joueurs sont sur le terrain et c'est eux qui jouent les coups et c'est eux qui gagnent les matchs, mais sans un coach, sans un capitaine, sans quelqu'un qui va réfléchir. Luke Donald était déjà là il y a 2 ans. Il avait mené cette équipe là pour le coup à la victoire, une exceptionnelle victoire. C'en est une autre exceptionnelle victoire ce week-end, donc il a encore fait le job, et ça a été d'ailleurs un pari des Européens de choisir à nouveau le même capitaine, donc c'était très bien, il les connaissait. 11 des 12 joueurs étaient présents il y a 2 ans, donc aussi ça compte. Mais on parlait tout à l'heure, on parlait des raisons pour lesquelles les Américains ont des difficultés aussi en Ryder Cup. Je pense que les raisons qui leur donnent envie de gagner ne sont pas les mêmes que celles des Européens, et peut-être que ce ne sont pas de bonnes raisons. On ne peut pas gagner juste pour l'ego. On ne peut pas juste gagner parce qu'on se sait supérieur, on se pense supérieur, parce qu'aux États-Unis, on sait que les Américains sont comme ça, ils ont cette attitude-là, qui souvent les fait gagner d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr.
C'est sûr. Mais dans cette discipline-là, dans ce sport-là, dans cette compétition-là, ce n'est pas suffisant. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que les Européens vont gagner tout le temps. Là, ils avaient fait le job après donc, les deux jours. De partie en double, puisqu'il y avait 4 sessions de 4 matchs. Donc avec 16 points à distribuer.
C'est ça.
Et ils ont remporté, comme je disais, les 4 sessions assez largement. Mm-hmm. Les Américains jouaient très bien, mais les Européens jouaient encore mieux. Mm-hmm.
Et ils jouaient en équipe.
Donc c'est aussi ce qui a fait la différence, mais aussi tout simplement aussi en jouant très bien, parce que les Européens ont fait des coups assez fabuleux. Mm-hmm. Et puis ils se sont présentés avec une avance considérable, oui. Mathématiquement.
11,5 à 4,5.
Il restait 12 points à distribuer. Il y a eu un petit fait qui a pu laisser penser que ce serait plus facile, c'était le fait que Victor Hovland, le Norvégien, s'est blessé la veille, n'a pas joué la session de l'après-midi.
Donc ça faisait un demi-point pour chaque
Donc la règle dans
équipe.
Cette compétition est assez particulière, parce que si un joueur se blesse, l'équipe adverse met un nom, met un nom dans une enveloppe. Enfin, chaque équipe met un nom dans une enveloppe au cas où un joueur se blesse. Et puis lorsqu'un Européen se blesse, on sort l'enveloppe américaine et on regarde qui avait été désigné pour jouer contre ce joueur, et c'était Harris English pour l'équipe américaine. Et donc, en fait, le match, dans ce cas-là, est partagé.
C'est ça.
Donc, les deux équipes avaient gagné un demi-point.
Donc, il restait plus que 2 points à prendre pour les Européens.
L'équipe européenne avait 11,5, il lui fallait 2,5 pour arriver à 14. Mmh. Donc, 14 partout, ça équivaut à une victoire. En tous les cas, le détenteur du trophée le conserve. Et pour gagner véritablement, il faut 14,5, et c'est surtout 14,5 qu'il fallait pour les Américains. Mmh. Et puis donc, on se disait fort logiquement que 2,5, ça ne poserait pas grand problème. On s'en posait encore moins après une heure de jeu, puisque beaucoup de matchs étaient dominés par les Européens, donc ça ne devait pas poser de problème. Et puis, la glorieuse incertitude du sport, et puis parce que les Américains sont très forts, parce que devant leur public, parce que, évidemment, ils en avaient envie
parce que c'est la Ryder Cup.
Que les Européens, parce que c'est la Ryder Cup, parce que c'est le golf, qui est un sport absolument exceptionnel. Et ils ont remonté leur retard, et puis surtout les deux premiers matchs ont été gagnés par les Américains, alors que ça n'en prenait pas le chemin. Et puis ça a fait basculer un petit peu tout ça. On parle de momentum dans le golf, un peu d'élan, et puis ça a donné de l'élan aux autres. Bryson DeChambeau qui était largement dominé, qui était écrasé par Tommy Fleetwood, qui était mené 5 up, donc il y avait 5 trous de retard, et qui finalement a quasiment failli gagner son match, et puis finalement ils ont réussi à le partager. Donc ça fait un premier demi-point pour les Européens, et on se disait, mais quand est-ce que l'Europe va avoir ces 2,5 points? Et puis Ludvig Åberg, le Suédois, je rappelle que ce joueur était arrivé il y a 2 ans en équipe de Ryder Cup. C'était un jeune joueur, un rookie à l'époque, mais surtout un rookie qui n'avait même pas joué un tournoi majeur sa carrière. Donc sélectionné en équipe de Ryder Cup sans jamais avoir joué un tournoi majeur, c'était exceptionnel. Il a prouvé que, d'abord pendant cette compétition il y a 2 ans, que Luke Donald ne s'était pas trompé. Il a fait deux très belles années, même s'il reste encore à gagner des grands tournois. Et puis il a été resélectionné cette année, il a encore montré. C'est le seul joueur européen qui a gagné son match sur les 12 qui étaient proposés, donc c'est pas rien. Mmh. Et puis moi j'ai quand même passé, je le dis, j'ai passé les 2 dernières heures debout, parce qu'il n'était pas possible de s'asseoir.
Alors justement, j'allais venir, parce que vous suivez forcément, et j'ai suivi aussi personnellement ce week-end cette Ryder Cup. Il se passe quoi quand Sean Lowry mais le putt qui permet à l'équipe européenne...
Alors il se passe
européenne.
Quoi pour qui pour les supporters
non mais pour, vous, pour... non mais pour vous, parce que forcément, quand on est passionné de ce sport...
Ça a été tellement difficile, alors c'est une joie, on a envie en fait de rentrer dans la télé, et puis on a envie d'aller sur le green du 18, puisque c'est sur le 18 que ça se passe, et on a envie d'avoir cette chance de célébrer avec ces joueurs-là cette victoire, c'était phénoménal. Mais on a tellement souffert avant qu'il rentre ce putt.
Ça a été compliqué.
Parce que lui aussi, il était mené, Sean Lowry était mené, il a réussi à gagner les 2 derniers trous et à revenir pour avoir ce demi-point, parce que seulement un demi-point, il a partagé son match, il ne faut pas l'oublier, donc c'était exceptionnel. Après les 2 derniers matchs, on a réussi, les Européens ont réussi à glaner quelques demi-points, ça fait une victoire 15-13 qui ne souffre pas de contestation.
Ce qui est assez exceptionnel, Eric Figuère, et je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez aussi, mais pour des gens qui ne s'intéressent pas forcément au golf de manière habituelle, la Ryder Cup. On vous en parle. Enfin, moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Ah, mais c'est finalement bien, le golf. »
J'essaye d'en parler en tous les cas. D'expliquer aux gens que ce sport est plus qu'un sport, et une activité, un sport, une aventure, enfin, qui est juste exceptionnelle. Mm-hmm. Donc, j'avais indiqué aux auditeurs la semaine dernière que, voilà, venez regarder un petit peu, passer quelques minutes, voire un petit peu plus à regarder ce spectacle, parce que c'est un spectacle fabuleux. Alors après, voilà, il faut connaître un petit peu, c'est certain, pour bien comprendre comment les choses se passent. Mais venez au golf, regardez du golf, c'est juste exceptionnel.
En dehors du fait que c'est vraiment la compétition entre le vieux continent et les États-Unis, il y a aussi cette notion dont on parlait tout à l'heure de jouer en équipe. Mmh. Les gens ne sont pas habitués à voir ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est beau à voir, de voir des stars, des joueurs qui individuellement sont des virtuoses, se taper dans la main, s'encourager, se tenir par l'épaule. Donc on se rapproche un peu plus du sport d'équipe et c'est ce qui plaît aussi.
Et avec une formule de jeu qui est très différente, on en avait parlé la semaine dernière, de celle qui se joue habituellement chez les professionnels, où d'ordinaire ils jouent contre le parcours et contre tous les autres joueurs, qui en général sont à peu près 140, 150.
C'est ça.
Là, ils jouent vraiment les matchs un contre un ou deux contre deux quand c'est en double. Et ça change tout à fait, puisque au lieu de jouer sur la totalité du parcours à additionner le nombre de coups pour qu'ensuite celui qui a joué le moins de coups gagne, là c'est vraiment au trou par trou, et donc il y a une psychologie qui est tout à fait différente et qui nous donne un spectacle fabuleux.
Et plus facile à suivre aussi, pardon.
Il nous reste 2 minutes, je voulais simplement, alors peut-être que ça fera partie de vos coups de cœur éventuels, mais j'aimerais qu'on parle de Marc Marquez,
bien sûr,
cette fois champion du monde.
Champion du monde ce week-end, on l'attendait, comme je le disais tout à l'heure, on le voyait arriver bien évidemment, parce qu'il est tellement supérieur, il a tellement dominé cette année. Moi, je trouve fabuleux, puisqu'il est passé par des moments très difficiles et il a été très, très gravement blessé il y a 4 ou 5 ans. Il a évidemment accepté, mais il a été sur la monture qui pouvait lui permettre de regagner ce titre-là. Sur la meilleure moto, mais il ne suffit pas d'avoir la meilleure moto, il faut être aussi le meilleur pilote.
Mmh. Bruno ?
Oui, exceptionnel. Marc Marquez, exceptionnel. 7e titre, il n'y a rien à dire. Hein. Et puis 9 titres de champion, donc, dont 7 en MotoGP, 1 en Moto 2 et 1 en Moto 3.
Ouais, donc il a fait
toutes
les catégories.
Il égale Valentino Rossi.
Exactement.
Avec 7 titres en MotoGP, donc la catégorie reine quand même.
Un petit mot aussi, parce que je trouve que c'est aussi un athlète exceptionnel. Il s'appelle Tadej Pogacar, champion du monde.
Là aussi, les spécialistes du vélo, les dernières semaines, à votre micro, avaient avancé très, très justement qu'il était plus qu'un grand favori. Mm-hmm. Mais être un grand favori, gagner, on croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Et puis là, il avait fait une démonstration de force, comme il en fait assez régulièrement. Mm-hmm. Mais un championnat du monde, il a dynamité à une centaine de kilomètres de l'arrivée.
104 kilomètres de l'arrivée, comme l'année dernière, il a fait le coup.
Et puis il a fini tout seul, et puis il a montré que le patron, c'était lui, et qu'il est en train de devenir l'un des plus grands cycliste de l'histoire. Il l'était déjà depuis quelque temps, mais là, il est en train d'arriver au sommet et de dépasser tous les autres.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini. Oui, il y a les championnats d'Europe la semaine prochaine. Donc pourquoi pas, effectivement. Ouais. Merci messieurs d'être venus sur le plateau d'une semaine sportmidable. C'était un bon moment de sport avec
vous.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Dans un instant, c'est le journal Info Soir avec Léana Colombo. Excellente semaine.